Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames et messieurs, nous avons entamé la fois dernière l'étude du corps des janissaires, la milice servile des Ottomans. Et tout naturellement, nous avons commencé par nous pencher sur leur origine. Les plus anciennes chroniques ottomanes, au demeurant, comme nous l'avons dit, postérieure de plusieurs décennies aux événements, situe ses origines sous le règne de Mourad Ier, le troisième des souverains ottomans, et donc dans la seconde moitié du XIVe siècle. En outre, ces chroniques présentent cette innovation militaire comme la conséquence d'une innovation fiscale. Les conseillers de Mourad Ier, des religieux d'origine, l'auraient incité à mettre en pratique un principe ancien dont la source figure dans le Coran, en prélevant pour le fisc un cinquième du butin réalisé pendant les raids. Ce serait à partir des jeunes captifs obtenus dans ce cadre que les janissaires auraient été initialement constitués. Parmi les derniers historiens à s'être penchés sur la question, Madame Beldiceanu Steiner, que j'ai citée la fois dernière, a confirmé l'attribution de la création des janissaires à Mourad Ier en s'inscrivant en faux contre une autre tradition les faisant remonter à Oran, le prédécesseur de Mourad Ier. Qui plus est, elle a cru pouvoir préciser la date de cette mesure à l'intérieur du règne de Mourad Ier, qui se situe, je vous le rappelle, entre 1360 et 1389. Elle a en effet mis en évidence que dans la première partie de son règne, Mourad avait été bloqué en Anatolie et dans l'impossibilité de mettre le pied en Europe du fait de la récupération par les Byzantins de l'ancien point d'appui des Ottomans, Gallipoli ou Gelibolu. Au contraire, à partir du moment où Gallipoli lui sera restitué par les Byzantins, soit dans l'hiver 1376-1377, Mourad peut retourner en Europe et reprendre son contrôle sur les chefs de raideurs turcs qui avaient agi de manière indépendante en Europe pendant tout le temps où il avait été tenu à l'écart. L'instauration d'un prélèvement fiscal sur les butins qu'il remportait sur l'infidèle apparaît ainsi comme la conséquence et la manifestation de cette reprise en main du pouvoir ottoman, et cela n'a pu s'accomplir qu'à partir de l'hiver 1376-1377. Aussi convaincante soit-elle, la démonstration de Madame Beldiceanu garde cependant, me semble-t-il, ses limites. Elle explique pourquoi l'innovation fiscale était alors devenue possible. Elle n'explique pas pourquoi l'innovation militaire qui l'accompagne, la création des janissaires, serait devenue alors nécessaire. Or, quel que soit l'ordre dans lequel les chroniqueurs ont présenté ces deux innovations, c'est bien l'innovation militaire qui est ou qui devient rapidement l'objectif prioritaire. Ainsi s'explique que la nature de l'innovation fiscale ait été très vite transformée. les conseillers de Mourad Ier avaient préconisé dans un premier temps, d'après ce que nous disent ces chroniqueurs, un prélèvement en argent de 25 aspres par captif, ce qui correspondait au cinquième de la valeur moyenne de ces captifs, mais dans un second temps, au moment de mettre la mesure en application, les mêmes chargent le grand chef des raideurs opérant en territoire infidèle, Evrenos Bey, de retenir un captif sur cinq pour le compte du fisc. C'est bien la volonté de créer un corps d'esclaves qui amène cette inflexion. Après avoir ainsi regardé du côté de l'histoire, où les choses ne sont donc pas, comme vous pouvez le constater, parfaitement claires, nous allons, comme je l'avais annoncé, regarder à présent du côté de la légende, où tout est entièrement différent et, bien entendu, beaucoup plus clair. Pour autant, tout est loin d'y être arbitraire et gratuit. La légende sur l'origine des janissaires est liée à une réalité historique de longue durée. Le lien étroit, officialisé comme nous l'avons vu à la fin du XVIe siècle, mais existant dans les faits depuis beaucoup plus longtemps et vraisemblablement depuis le départ, entre le corps des janissaires et la confrérie religieuse des Bektachis. C'est précisément dans une hagiographie de Hadje Bektash Veli, le saint patron de cette confrérie, une œuvre qu'il faut vraisemblablement dater du XVe siècle, le Vilayet Name, où les actions héroïques du souverain, entendons du vrai souverain, Menakibi Hunkiar Hadje Bektash Veli. Selon cette légende, les janissaires n'auraient pas été créés sous le troisième des beys ottomans, ni même sous le deuxième, mais sous le premier, sous Osman lui-même, ce qui voudrait dire dès le début du XIVe siècle au plus tard. Ce serait le fruit d'une rencontre entre cet Osman et Hadje Bektash lui-même, lequel avait cependant vécu plusieurs décennies auparavant. La légende ne fait pas que raconter comment les janissaires furent créés, elle explique aussi l'origine de leur couvre-chef caractéristique qu'elle désigne comme le bonnet blanc, Ak Burk. Mais donnons plutôt la parole au Vilayet Name, à cette hagiographie que je vous ai présentée et qui a été publiée par l'historien turc Gülpınarlı en 1958. Je cite, « Et en lui présentant Osman, donc le bey Osman est présenté à Hadje Bektash, ils lui dirent qu'il était l'un des beys de la tribu de Kaya, et c'est là une autre légende, celle de l'origine des Ottomans qui descendraient de la tribu la plus noble du peuple turc, des Oğuz, c'est-à-dire la tribu de Kaya ou Kayeux. C'est cette autre légende qui se trouve insérée dans le texte que je suis en train de vous lire. Donc, il le présente à Hadje Bektash et il lui contère toute son histoire. La rencontre, cette rencontre qui nous est décrite entre Osman et Hadje Bektash, donne lieu à une description très littérale d'un rite. Un rite dont le regretté Jean-Paul Roux, récemment disparu, avait rassemblé autrefois des attestations chez les Turcs et les Mongols, depuis leurs monuments littéraires les plus anciens. Je fais ici référence à un des articles de Jean-Paul Roux, « Quelques objets numineux des Turcs et des Mongols, le bonnet et la ceinture », un article publié dans Turcica en 1975. Bien, le rite en question se décompose en deux temps. Premièrement, il consiste dans l'action de retirer son bonnet et sa ceinture face, vis-à-vis, d'un protagoniste. Deuxièmement, on se fera remettre son bonnet et sa ceinture par ce même protagoniste. Voici comment Jean-Paul Roux décrivait le rite et l'interprétait en complétant des interprétations précédentes, notamment de Vladimir Tsov et de René Grousset. « Ôter sa ceinture et son bonnet, écrit-il, équivaut à abandonner à quelqu'un, homme ou divinité, ses droits, son autorité, sa puissance ou sa liberté, à les lui remettre pour que ce quelqu'un en dispose librement, pour qu'il puisse replacer le bonnet sur la tête et replacer la ceinture autour des reins, établissant ainsi un lien de vassalité montrant que les biens dont on va jouir à nouveau viennent de lui et dépendent de lui. En turc de Turquie, remarquait enfin Jean-Paul Roux, bel balamak, mot à mot lier les reins, signifie se fier, avoir confiance et aussi compter sur quelqu'un. Cette clé d'interprétation fournie, revenons au texte du Vilayet Nameh qui nous décrit l'accomplissement d'un rite semblable entre Osman et Hacı Bektaş. D'ailleurs, Jean-Paul Roux, qui n'avait pas étendu son investigation à la période ottomane, ne cite pas ce cas, pourtant très représentatif de la rencontre entre Osman et Hacı Bektaş. Il y a cependant une différence dans la façon dont les choses vont se passer entre nos deux héros. Parce que ce ne sont pas ses propres bonnets et ceintures que Hacı Bektaş va restituer à Osman, mais un autre bonnet et la ceinture même de Hacı Bektaş, dont il se défait au profit d'Osman. Comment comprendre, comment interpréter ces divergences par rapport au schéma habituel, sinon en considérant que Hacı Bektaş ne fait pas qu'investir Osman, il partagera désormais avec le chef turkmène quelque chose de son propre pouvoir charismatique. Or, Osman, dit Bektaş, sois le bienvenu. Ta présence nous honore. Avance-toi et enlève ton bonnet. Osman s'avança, s'agenouilla et Bektaş le coiffa d'un bonnet. Il enleva la ceinture qu'il portait et en ceint Osman. Puis il prit la nappe qui était à côté de lui, et la lui remit en disant « Prends ceci, nous te confions à tes ennemis, qu'aucun idolâtre ne puisse te résister, que jamais leurs épées ne puissent t'atteindre, tant que tu porteras notre coiffe, notre bonnet. » La lutte d'Osman sera une lutte religieuse, une guerre sainte contre les infidèles, les idolâtres, comme ils sont appelés. Et dans cette lutte, le bonnet de Hacı Bektaş aura un rôle de talisman. Il le rendra invincible. ce bonnet est doté d'un pouvoir magique. Adjobektash poursuit dans la suite du récit. « Que personne ne puisse te terrasser. Je te confie mon nom de Hunkiar, c'est-à-dire de souverain, d'empereur. » On voit donc que Bektash transmet sa royauté, en l'occurrence une royauté spirituelle, à Osman. Et il ajoute que ta descendance porte ce nom et que ton flambeau resplendisse du levant au couchant. Les saints du pays de Roum, c'est-à-dire de l'Anatolie, ces saints qui, pour la plupart d'entre eux, étaient venus du Khorassan ou d'Asie centrale en Anatolie. Les saints, donc, dit Adjobektash, du pays de Roum, envisageaient de confier cet honneur à plusieurs autres. Et cette notation est intéressante et montre bien combien la légende est en fait tissée d'histoires réelles, puisque, effectivement, au départ, il y avait toute une série de beyliks en Anatolie, celui des Ottomans n'étant que l'un d'entre eux, mais il a été choisi par les saints venus du Khorassan et d'Asie centrale en Anatolie. Il a été choisi comme le plus apte à accomplir leur dessein de victoire sur les idolâtres. Mais moi, depuis 7 ans, un nombre sacré, continue Adjobektash, je garde en moi ton esprit et celui de ta descendance. Donc on peut traduire, contrairement à d'autres babas, à d'autres saints, Adjobektash a parié d'emblée, depuis 7 ans, dit-il, sur le beylik d'Osman. Te voici, reçois ce que tu dois recevoir. Un peu plus loin dans le texte, nous lirons ceci. Osman monta sur son cheval et se rendit auprès du sultan Alaeddin. Alors là, c'est une allusion à Alaeddin Kaykobad III, qui a été à 3 reprises le sultan seldjoukide de Konya entre la fin du XIIIe et le début du XIVe, et qui est présenté comme un suzerain des baies turkmènes. Donc, Osman se rendit auprès du sultan Alaeddin pour lui demander l'autorisation de réunir des soldats et d'attaquer les idolâtres. Il coiffa tous ses hommes de la façon dont Bektash l'avait coiffé. Ceux qui le purent décorèrent ce bonnet avec de l'or, afin de se rendre encore plus impressionnant. Le bonnet, comme d'ailleurs les autres coiffures des différents corps militaires, doit effrayer l'ennemi. Ainsi, tous les guerriers du pays se regroupèrent autour d'Osman et se coiffèrent comme lui. Les nouveaux arrivants eurent des bonnets rouges, tandis que les proches d'Osman avaient des bonnets blancs. On les appelait Kapekulu. C'est-à-dire littéralement esclave, cool, de la porte. Eh bien, voilà un texte qui se veut un récit de l'origine des janissaires. Et il est tout à fait différent comme celui que j'ai cité la semaine dernière, si vous vous en souvenez, emprunté à la chronique d'Oruch. Ce texte comporte dans sa trame des éléments très véridiques, en accord avec, je dirais, l'état le plus récent de l'historiographie du sujet, comme le fait que certains milieux de derviches anatoliens aient, à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, parié, en quelque sorte, sur le beylik d'Osman, de préférence à d'autres beyliks, le cas échéant, plus anciens et plus importants. Véridique aussi est le fait que, comme le dit bien le texte, tous les guerriers du pays se regroupèrent autour d'Osman, car il s'est imposé comme un chef d'expédition contre les infidèles. Et ces guerriers ont afflué, en effet, vers la petite principauté frontalière d'Osman. Mais ces hommes qui affluent vers le beylik d'Osman ne sont évidemment pas, ne sont en aucun cas des janissaires. D'ailleurs, vous aurez remarqué que le terme de janissaire, Yenicheri, n'est pas cité dans ce prétendu récit de l'origine des janissaires. Il n'est question que de kapekoulou, d'esclaves de la porte, une expression dont on s'explique d'ailleurs mal la raison, puisqu'il n'a pas été dit par ailleurs que les soldats en question étaient des koules, c'est-à-dire des esclaves, mais seulement qu'ils étaient les plus proches d'Osman. En réalité, ce récit est non seulement anachronique, comme je l'ai dit dès le début, en attribuant la création des janissaires à Osman et en faisant de ce dernier un contemporain de Hadje Bektash, mais il met en quelque sorte la charrue avant les bœufs. Il fait en effet de ceux qu'il appelle, sans expliquer pourquoi, les Kapekoulou, les troupes originelles des Ottomans, la première armée d'Osman. Et c'est peut-être là l'explication de l'absence du terme janissaire, ce terme signifiant, comme je l'ai déjà dit, nouvelle troupe. Donc, c'est un terme qui présuppose qu'il y en avait d'autres avant, d'un type différent, ce qui va à l'encontre de la théorie soutenue dans ce texte. Et dans cette théorie, ce sont les troupes d'autres types qui ont été instituées après ce noyau de départ qu'auraient été les esclaves de la porte. Elles sont désignées, ces autres troupes, comme les nouveaux arrivants qu'on distingue de leurs prédécesseurs en les coiffant non plus d'un bonnet blanc, mais d'un bonnet rouge, lequel n'est pas investi du même charisme. La légende inverse, en quelque sorte, ce que nous savons de la chronologie respective des différents éléments de l'armée ottomane. Elle a pour fin de délivrer un message qu'on pourrait décrypter de la façon suivante. Les janissaires sont la composante fondamentale de l'armée ottomane et donc le fer de lance de sa mission essentielle qui est et qui ne peut être, je dirais, que de nature religieuse. La lutte contre l'infidèle présentée comme l'extirpation de la résistance des idolâtres. L'autre partie du message est que Osman et ses troupes propres, les esclaves de sa porte, ne font qu'un entre eux et qu'un avec Hadje Bektash lui-même qui leur a communiqué sa baraka. Osman et ses koules portent comme marque distinctive le bonnet blanc remis par le saint. Version légendaire et tentative d'approche historique sont évidemment pour nous contradictoires. Le corps des janissaires ne peut pas à la fois avoir été créé sous Osman avec la bénédiction de Hadje Bektashvili et, d'autre part, avoir été institué par Mourad Ier. Pourtant, cette contradiction n'existera pas pour un auteur anonyme du début du XVIIe siècle, lui-même membre du corps des janissaires, qui a rédigé une somme sur les règlements organisant le corps des janissaires, une somme intitulée, au moins dans certains de ses manuscrits, « Kavanini Yenicherian », c'est-à-dire les lois ou les règles des janissaires. Un texte dont nous aurons l'occasion de reparler maintes fois. Cet auteur est en effet soucieux de mise au point historique, mais pour autant, il n'est pas question pour lui de tirer un trait sur la légitimité et sur la baraka que confère pour l'éternité au corps des janissaires le parrainage d'un saint comme Hadje Bektash. Voici comment il concilie ces deux exigences apparemment inconciliables dans un passage du deuxième chapitre de son ouvrage. Il confirme que c'est bien Hadje Bektash qui a donné aux janissaires le modèle de leur bonnet blanc, qui n'est autre que le couvre-chef que lui-même portait. Cependant, notre auteur va compliquer un peu les choses en évoquant l'origine de ce bonnet de Hadje Bektash. Elle renvoie cette origine au voyage qu'aurait fait de conserve Hadje Bektash et un autre saint originaire d'Asie centrale, le père du fameux Mevlana Celaleddin Rumi. Les deux personnages marchant depuis le Khorasan jusqu'au pays de Roum, c'est-à-dire jusqu'en Anatolie, Hadje Bektash, en cours de route, se blesse le pied contre une pierre. À ce moment-là, son compagnon, son saint compagnon, aurait coupé la manche de son manteau pour qu'il s'en fasse un pansement. Mais, par respect, Bektash aurait posé cette manche d'une provenance aussi vénérable, non sur son pied, mais sur sa tête. Et c'est la coiffure particulière qui en aurait résulté, qui aurait servi de modèle au bonnet des janissaires. Un intérêt de cette précision est de resituer le parrainage spirituel de Hadje Bektash et donc de l'ordre des Bektashis sur les janissaires. C'est bien le bonnet de Hadje Bektash que portent ces derniers et dont ils recueillent l'influx bénéfique, mais le pouvoir propitiatoire de ce bonnet ne provient pas exclusivement et même pas initialement des charismes de Hadje Bektash, puisque avant d'être le bonnet de celui-ci, cette pièce de feutre n'était autre que la manche du manteau du père du fondateur de l'ordre des Mevlevi, des derviches tourneurs, Celaleddin Rumi. C'est donc la sainteté Mevlevi qui aurait été la première dans le processus de sacralisation. Les deux grands ordres anatoliens, Mevlevi et Bektashi, y étaient donc impliqués. Si les seconds s'étaient imposés, les charismes du premier avaient été, à suivre le récit que je suis en train d'évoquer, les charismes du premier auraient été au point de départ. Quoi qu'il en soit, Hadje Bektash apparaît bien dans le texte, et c'est ce que c'est ce qui nous importe ici, comme le fondateur des jadissaires. Toutefois, nous précise notre auteur anonyme, de son vivant, le corps des janissaires n'existait encore que virtuellement. C'était un corps sans troupe. Ce n'est que plus tard qu'il prendra une existence effective, comme l'écrit assez joliment notre auteur, Adjebektash était mort avant que les janissaires n'eussent été effectivement levés. En turc, ve lakin adjebektash veli yenitcheri cem olun madam feft eylemishdir. Au surplus, quand le moment arrivera de les lever effectivement, celui qui se chargera de leur faire revêtir le fameux bonnet blanc ne sera autre que le fils spirituel de Adjebektash Veli, un certain Timurtash Dede. Et cela se passera comme de juste sous le règne de Murad Ier. Voilà comment notre auteur conciliait mystique et historicité, légende et chronique, sans trop de problèmes, comme vous pouvez en juger. Une cinquantaine d'années avant l'ouvrage anonyme que je viens d'évoquer, un des grands oulémas du règne de Soliman le Magnifique, Ahmed Tashkeprüzadeh, un savant de haute volée, autant qu'un auteur prodigieusement prolixe, compose en arabe le premier dictionnaire biographique des oulémas ottomans, intitulé « Ash-Shaikh al-Numaniya fi ulama al-Dawla al-Osmaniya ». Il y inclut aussi bien les juristes et autres hommes de science que les mystiques ou, comme nous dirions, les soufis, en les classant par règne de sultans ottomans successifs. Il consacre une notice, d'ailleurs succincte, à Adjebektash. Il a manifestement peu de choses à dire, et pour cause, sur la vie de ce personnage. Cependant, il juge utile de préciser, dans la ligne qui est la sienne, une ligne d'une stricte orthodoxie, à notre époque, dit-il, certains hérétiques se réclament faussement de lui, de Adjebektash. Il est, à n'en pas douter, exempt de tout lien avec eux. Donc, il resitue bien Adjebektash à l'intérieur de l'orthodoxie sunnite. Mais ce n'est pas tant cela qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il place Adjebektash parmi les religieux, tenez-vous bien, du règne de Murad Ier, c'est-à-dire qu'il le rajeunit d'une bonne centaine d'années. Je ne saurais expliquer et interpréter de façon catégorique ce qui nous apparaît comme une erreur historique assez énorme. J'observe d'ailleurs qu'une autre grande figure, le poète mystique Yunus Emre, qui a vécu, autant qu'on puisse savoir, entre 1228 et 1320, est placé, lui aussi, sous le règne de Murad Ier et, par conséquent, rajeuni, là encore, de plusieurs décennies. Quoi qu'il en soit, et même si je ne peux pas affirmer que la motivation première de la liberté prise par un savant aussi éminent que Tashkeprüzadeh avec la chronologie, donc quelles qu'aient été ses motivations, il faut dire que placé à Göbektaş sous le règne de Mourad Ier présentait un grand avantage, rendre possible l'institution des janissaires par Göbektaş et par conséquent réconcilier d'une autre manière que dans l'élaboration précédente que j'ai mentionnée, la légende et l'histoire. En même temps, cette légende bektachi de la fondation des janissaires, dont les auteurs semblent soucieux de préserver la crédibilité par des moyens divers, nous livre sans doute la raison profonde de l'affiliation des janissaires au bektachi, quelles que soient les formes successives prises par cette affiliation au cours des âges. De la même façon qu'un jeune enfant doit être préservé du mauvais œil par des amulettes appropriées, la milice nouvellement créée, conçue comme un corps véritable, homogène et soudé et étroitement lié à la personne du souverain, consubstantiel, je dirais, à la personne du souverain, ce corps devait bénéficier de charismes particuliers, protecteurs et propitiatoires, d'une baraka qui ne pouvait provenir que d'un ou de plusieurs saints, baba ou veli. Göbektaş, dont la promotion est étroitement liée à l'ascension des premiers ottomans, dont la suprématie spirituelle a pu être interprétée comme une fabrication au moins partielle des gouvernants ottomans, se soit vu attribuer un rôle prépondérant en la matière, n'a rien d'étonnant. Les historiens qui ont spéculé sur les causes du lien entre janissaires et bektachi me semblent avoir souvent perdu de vue deux idées simples. Nous sommes dans un univers où il est inconcevable de créer quoi que ce soit, surtout un outil militaire, sans chercher à lui assurer l'influx d'un pouvoir surnaturel. D'autre part, nous sommes dans une phase de l'histoire de la dynastie où celle-ci reste étroitement liée à la spiritualité babaï qui se cristallise sur la figure de Göbektaş. Quand le positionnement religieux des Ottomans se sera modifié dans les siècles suivants, les janissaires resteront les héritiers de cette phase antérieure de l'histoire de la dynastie. Il y avait dans la légende un autre aspect que je n'ai pas encore eu l'occasion de relever. Les janissaires n'y étaient pas seulement présentés comme le plus ancien des corps ottomans, ils revêtaient d'emblée leur rôle de composante essentielle de l'armée dans son ensemble, de fer de lance de la lutte contre les infidèles. N'y avait-il donc pas là une illusion rétrospective poussée jusqu'à l'absurde? Une autre forme d'anachronisme. Voilà bien une autre question que l'historien doit se poser. Il ne doit pas seulement se demander quand les janissaires ont été créés, mais ce qu'ils furent au départ. Ont-ils donc été ainsi tout de suite le noyau dur et la force de choc qu'ils deviendront par la suite? En réalité, il apparaît qu'ils ne sont pas, telle Minerve sortie toute casquée et armée de la cuisse de Jupiter. Il semble qu'avant de s'imposer comme l'élite de l'armée, ils aient connu des avatars successifs, correspondant plus ou moins aux facettes diverses que nous avions observé chez les gardes serviles des régimes islamiques antérieurs. Les indications les plus anciennes dont nous disposions sur le nombre et le rôle des janissaires poussent en effet à minorer leur importance par rapport à celle de différents autres corps que nous avons passés en revue l'année dernière, qui avaient été créés avant eux sur des bases toutes différentes, comme, je rappelle leur nom, comme les infanteries des Yaya et des Azab. Eh bien, lors de la fameuse bataille de Kosovo en 1389, les janissaires, d'après le Fetnamé, le bulletin de victoire, qui sera reproduit dans le recueil du chancelier Feridoun, ces janissaires n'auraient été que 2000 archers à la bataille de Kosovo, quand, dans le même temps, certaines chroniques attribuent 60 000 hommes aux Yaya. Il est vrai qu'Orouch, que je cite une nouvelle fois, quant à lui, abaisse ce chiffre des Yaya à 10 000. Quant aux Azab, ils auraient été 40 000 dans la même bataille. D'une manière générale, dans les premières grandes expéditions et batailles rangées ottomanes, les Azab, en nombre d'ailleurs variable, sont toujours beaucoup plus nombreux que les janissaires. Loin d'être le noyau dur de l'armée et sa principale force de frappe, ces derniers apparaissent davantage comme une avant-garde et une escorte impériale, fonction correspondant à leurs effectifs relativement faibles. Il semble qu'il faille mettre en relation avec cet état originel des janissaires un fait que les historiens enregistrent sans véritablement chercher à l'expliquer. Le titre de l'officier qui fut à l'origine le chef suprême des janissaires. Ce titre, c'était celui de Segban Bashe. D'autre part, plusieurs grands officiers du corps des janissaires continueront à porter différents titres qui sont, comme celui de Segban Bashe, des titres en rapport avec la chasse. En effet, le Segban Bashe n'est autre, c'est la traduction de l'expression, que le chef des valets de chiens. On trouvera de même, parmi les titres des officiers généraux auxquels je faisais allusion, celui de Saksonjou ou Samsonjou Bashe, c'est-à-dire le chef des valets préposés au mastif, une autre espèce de gros chien. On trouve de même le Zagardje Bashe, c'est-à-dire le chef des valets préposés au limier. Et il existe encore un Tournadje Bashe, littéralement le chef des valets préposés aux grues, ces grues servant, si je ne me trompe, d'appât dans la chasse aux faucons. On peut, me semble-t-il, voir dans cette singularité terminologique l'expression d'un lien étroit entre la vocation initiale des janissaires, c'est-à-dire le service personnel du souverain, et en l'occurrence le service du souverain quand celui-ci s'adonne à la chasse. Pour autant, autre remarque qu'on peut faire sur les débuts des janissaires, la proximité fonctionnelle avec le prince n'est pas un gage de loyauté à toute épreuve de la part des janissaires. On constate ainsi que que lors de la bataille d'Ankara en 1402, qui scellera le destin du sultan Bayezid Ier, qui sera vaincu et fait prisonnier par Tamerlan, l'aga, le chef des janissaires, Hassan, fait tout simplement défection avec ses hommes. Il est vrai qu'il ne fut pas le seul et que le fils aîné de Bayezid, Suleyman Çelebi, et le grand vizir lui-même abandonnèrent eux aussi le terrain. Dans la guerre civile qui suivit, opposant les fils de Bayezid entre eux, on ne voit pas que les janissaires aient eu un rôle en rien décisif. Et le fait que leur aga, Hassan, eût rallié Suleyman Çelebi ne fut aucunement une cause de succès pour ce dernier. Donc tout cela, vous voyez, pour montrer qu'au début, les janissaires ne sont pas si importants, si essentiels que cela. C'est dans le cadre du redressement de l'Empire qui suivra cette guerre civile de 10 ans que les choses vont véritablement changer à cet égard. Le nombre des janissaires va croître désormais. Il passe à 3000 sous le règne de Mourad II, qui règne de 1421 à 1451. C'est alors et alors seulement que va se former l'aura du corps des janissaires, qu'ils acquièrent la réputation d'un corps sans pareil, d'un outil militaire exceptionnel. On en trouve des échos dans ce récit épique anonyme des batailles du sultan Mourad II, que sont les Gazavat Sultan Mourad bin Mehmed Han, les guerres saintes de Sultan Mourad, fils de Sultan Mehmed Han. On entend les ennemis infidèles déclarer à leur roi, avant la bataille de Varna en 1444, « roi très fortuné ». Il se trouve que les fantassins du Turc sont un terrible défi pour nous. On n'en a jamais vu de pareil. Face à 100 000 assauts et à 100 000 chocs, pas un n'a bougé et n'a même tressailli. Jusqu'à aujourd'hui, disent les soldats chrétiens, nous n'avons jamais vu de pareils guerriers. Et quand le sultan annonce à ses janissaires la bataille décisive pour le lendemain, donc ce qui sera la bataille de Varna, ils lui répondent « L'ordre appartient au padishah, nous nous battrons jusqu'à ce que chacun de nous soit mis en pièces. » Eh bien, voilà ce que sont devenus les janissaires de ce temps-là. Ils sont déjà 5 000 au début du règne de son successeur, du successeur de Mourad II, c'est-à-dire Mehmed II, le conquérant de Constantinople, et ce dernier leur donnera un fort développement, surtout vers la fin de son règne. Il les fait passer alors à 10 000 hommes à l'occasion de ces guerres contre le souverain de la dynastie Akkoyunlu, Uzun Hasan, dans les années 1470. Une anecdote significative est rapportée à ce sujet, c'est pas au sujet du rapport entre Mehmed II et ses janissaires, par un contemporain dont nous aurons à reparler plusieurs fois, Constantin Mihailovitch d'Ostrovitsa, un captif serbe qui servira dans l'armée ottomane entre 1455 et 1463 et rédigera, pour la grande satisfaction des historiens, ses mémoires à la fin de sa vie, une fois retourné en chrétienté, plus précisément en Pologne. Selon cette anecdote, Mehmed II, ayant l'occasion d'admirer combien ses janissaires marchaient bien en formation, il aurait dit « Je donnerais beaucoup pour en avoir 10 000 comme cela ». Un homme de son escorte aurait alors ajouté « Fortuné Seigneur, vous n'en méritez pas seulement 10 000, mais 20 000 ». À ces mots, l'empereur plongea la main dans l'endroit de sa robe où il gardait des pièces d'or sur lui et il en donna 100 aux solaques, c'est-à-dire aux membres de sa garde, pour avoir prononcé de si belles paroles. L'accroissement spectaculaire de la fin du règne de Mehmed II se poursuivra sous son successeur Bayezid II, qui fait passer les effectifs des janissaires à 13 000 hommes. À l'époque, 13 000 hommes. À l'époque, une armée permanente de cette importance n'avait d'équivalent nulle part ailleurs, ni en Europe, ni en Asie. Il semble cependant que les effectifs ne se soient pas maintenus tout à fait à cette hauteur. Le successeur de Bayezid II, son fils Selim Ier, dispose lors de la bataille de Chaldiran contre le souverain de Perse Shah Ismail de 10 000 janissaires. Donc on est revenu au chiffre de 10 000 d'après la chronique de Kemal Pachazadeh. Et ce chiffre de 10 000 est confirmé par une liste de soldes de 1514. Donc vous voyez, là ce n'est plus le propos d'un chroniqueur, mais véritablement un document d'archives, une liste de soldes de 1514 qui donne un total de 10 156 janissaires. À cette époque, donc sous Selim Ier, une partie de ces janissaires sont d'ores et déjà armés d'arquebuses, tufeng en turc, d'arquebuses. C'est là un point décisif de l'évolution des janissaires sur lequel je vais revenir dans un instant. Mais je poursuis l'énumération de l'évolution des effectifs. Sous le règne de Soliman le Magnifique, les effectifs des janissaires augmenteront pour se stabiliser finalement entre 12 000 et 13 000 hommes. Mais par la suite, ils vont prendre un essor démesuré. Avant la mort de Mourad III, en 1595, le corps atteignait déjà 25 000 hommes, d'après une mention du chroniqueur Mustafa Ali. Eh bien, cette énumération de chiffres d'effectifs, qui est un peu austère, j'en conviens, a visé à rendre sensible une évolution qui, bien entendu, modifie la nature et le poids respectif du corps. Un autre indice du progrès de ce poids respectif est l'apparition de mutineries de janissaires, ces révoltes qui seront au centre de tous les soulèvements politiques éclatant dans l'Empire, éclatant dans la capitale plus précisément, au XVIIe et XVIIIe siècle. Eh bien, la première des mutineries de janissaires dont nous ayons connaissance prend place en 1432, c'est-à-dire sous le règne de Mourad II, dont je vous disais qu'il correspondait à un décollage, en somme, des effectifs des janissaires. Ils avaient protesté alors, en 1432, contre la dureté du service qu'on exigeait d'eux et la faiblesse de leurs soldes. le sultan avait réussi à les calmer en leur envoyant de l'argent et des cadeaux. Plus fameuse est la révolte suivante, la révolte de 1446, sous le premier règne de Mehmed II, qui, encore très jeune, il n'avait que 14 ans à ce moment-là, avait succédé à son père Mourad II, à la suite de l'abdication de ce dernier en 1444. Donc nous sommes 2 ans après ce premier avènement de Mehmed II, les janissaires se mutinent et il est vraisemblable qu'ils avaient été excités en sous-main par le grand vizir lui-même, Halil Pacha Djandarle, qui projetait d'écarter le jeune sultan et de faire revenir son père sur le trône. Les janissaires se plaignaient de la dépréciation, plus exactement de la baisse du titre d'argent, de la monnaie dans laquelle ils étaient rémunérés. Leur colère sera apaisée par une augmentation de leur solde d'un demi-aspre par jour. Le passage, d'ailleurs progressif, d'armes traditionnelles communes à d'autres corps de l'armée ottomane, comme l'arc et les flèches, aux armes à feu, n'est-ce pas ce passage auquel je faisais une première allusion il y a un instant, est un autre facteur essentiel de l'évolution du rôle et de la place des janissaires. On sait qu'en Europe occidentale, l'artillerie commence à être utilisée dans le second quart du XIVe siècle. De là, cette invention diabolique, comme la caractérisera Rabelais, cette invention diabolique, donc, passe dans les Balkans, en guerre contre les Ottomans, par l'intermédiaire de fournitures vénitiennes et ragusaines. Au contact des troupes balkaniques, principalement bosniaques et vraisemblablement aussi serbes, qu'il s'agisse d'ailleurs pour les Ottomans d'adversaires ou de contingents de vassaux, les Ottomans adoptent à leur tour, mais pas avant le début du XVe siècle, tant les pièces d'artillerie, à laquelle ils donneront d'ailleurs des dimensions inconnues jusque-là, donc ils imitent, mais en plus grand, que cette arme individuelle qu'est l'arquebuse, Tufeng, que j'ai déjà citée. Ces innovations vont d'ailleurs amener chez les Ottomans la création de nouveaux corps spécialisés, de canonniers, topçe, comme on les appelle, de trains de l'artillerie, top arabadje, et d'armuriers, djebedji. Plus tard, sous Soliman le Magnifique, seront institués des corps de sapeurs mineurs, laumdje, et de bombardiers, humbaradje. Mais pour revenir à nos janissaires, c'est vers eux que se tourneront les sultans pour mettre en œuvre cette arme nouvelle que représentaient les arquebuses qui commencent à être attestées dans l'Empire ottoman au plus tard en 1440-1443. Eh bien, nous verrons la semaine prochaine comment les janissaires se sont adaptés aux arquebuses. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.